C'est le journal de Marion Lourd, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, une seule injection va peut-être lui offrir une vie normale. Jules, 2 ans, souffre de myopathie myotubulaire. Une injection a permis de le soigner, témoignage dans un instant alors que le Téléthon démarre aujourd'hui. Un proche du dossier parle de cadeau de Noël pour le président Macron, le chef de l'État aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui. On attend une grosse commande d'avions Rafale. 9 cas de variant Covid Omicron confirmés en France et le Delta qui alimente la 5e vague. Les soignants sont sur le terrain, les brigades de la sécurité sociale aussi. Leur mission, briser les chaînes de contamination. Reportage dans cette édition. Et puis, l'histoire comique d'une fermière qui veut remonter le moral de son fils. Gros succès du cinéma français. Est-il boudé par les Parisiens ? Enquête dans ce journal sur le phénomène Baudin.
Et à 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux qui échangeront aujourd'hui sur le programme économique d'Éric Ciotti et Valérie Pécresse, arrivée hier en tête, je vous le rappelle, du premier tour de la primaire des Républicains.
France Inter.
Le Téléthon démarre ce soir, Marion, 35e édition et l'espoir à l'horizon.
Le Téléthon retrouve ses opérations de terrain après une édition confinée. Ça devrait faciliter la collecte de fonds. Après quelques décennies, la recherche sur les maladies rares et génétiques commence enfin à porter ses fruits. 12 candidats médicaments issus du Généthon, le laboratoire du Téléthon, sont en essai clinique. Parmi ces traitements, une injection qui permet de soigner la myopathie myotubulaire, maladie rare des muscles squelettiques, souvent fatale dans les premiers mois. Elle a sauvé Jules, 2 ans et demi. Anaïs, sa maman, témoigne.
Jules, il a été diagnostiqué atteint d'une myopathie myotubulaire à l'âge de 4 mois, qui a entraîné chez lui une faiblesse musculaire généralisée. Donc, il ne pouvait pas respirer par lui-même. Il avait une assistance mécanique 24 heures sur 24. Il ne pouvait pas déglutir, il ne pouvait pas bouger. En fait, il était prisonnier d'un corps qui ne lui permettait pas de faire grand-chose. Et en janvier 2020, il a reçu un traitement de thérapie génique qui a été assez incroyable, puisqu'en 3 semaines, il a commencé à tenir assis alors qu'il ne tenait à peine sa tête. L'assistance respiratoire, elle a été très vite diminuée jusqu'à être complètement arrêtée. Et aujourd'hui, à presque 2 ans d'injection, Jules, il commence à faire quelques pas de marche. Il a plus d'assistance respiratoire. Vous passez d'un état de il y a pas de traitement à finalement mon fils va peut-être avoir une vie normale comme ses camarades.
Le témoignage d'Anaïs, maman de Jules, au micro France Inter d'Alice Cachaner. France Inter est partenaire du Téléthon et le 13-14 de France Inter sera justement à la mi-journée en direct du Généthon, laboratoire de recherche du Téléthon. Pour rappel, les promesses de dons se font par internet ou par téléphone au 36-37. Les adhérents, les Républicains votent à partir de 8h ce matin pour trancher dans le duel surprise de la primaire LR. Face à face, à ma droite, Éric Ciotti arrivé en tête avec 25,6% des voix, qui reprend entre autres la thèse du grand remplacement. Et à ma gauche, si on peut dire, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Elle aura la voix des 3 candidats malheureux, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin. Fin du vote demain, 14h. On saura dans la foulée qui va représenter les Républicains à la présidentielle 2022. Une série d'articles sur le sujet est à retrouver sur notre site franceinter.fr. Pendant ce temps, le président de la République, lui, est aux Émirats Arabes Unis. Emmanuel Macron en tournée dans le Golfe. Il sera au Qatar ce soir, en Arabie Saoudite demain. Mais d'abord donc, escale à Dubaï avec l'annonce attendue de contrats à plusieurs milliards pour l'achat d'avions de combat Rafale. Christian Chesneau, cela viendrait confirmer les liens sécuritaires entre les Émirats et Paris.
C'est une nouvelle commande de Rafale qui se profile à l'horizon. Quand nous avons posé la question sur le nombre d'appareils en jeu, un responsable émirien nous a répondu sur le ton de la boutade. Nous laisserons au président Macron le plaisir d'ouvrir son cadeau de Noël. Entre la France et les Émirats Arabes Unis, c'est une véritable lune de miel au plan sécuritaire et militaire. Abu Dhabi est un client fidèle des industriels français qui ont déjà livré dans le passé des Mirages, des hélicoptères et des chars Leclerc. Les deux pays sont liés par un accord de défense signé en 2009 et surtout, l'armée française dispose d'une base aéronavale à Abu Dhabi, un point d'appui précieux dans la zone du détroit d'Ormuz. Nous apprécions la fiabilité et la continuité de notre partenaire français, poursuit notre officiel émirien. Alliés dans la lutte contre le terrorisme islamiste, la France et les Émirats partagent les mêmes vues et sont dans la même tranchée sur plusieurs dossiers régionaux en Libye et en Afrique où les Émiriens contribue au financement de la force G5 Sahel.
À l'étranger encore, alors qu'il commence à faire frisquet chez nous, record de chaleur à l'ouest des États-Unis et du Canada. Le mercure affiche 22,5 degrés en Colombie-Britannique. Il faisait 20 hier à Omaha, dans le Nebraska. Ces régions sont aussi celles qui ont subi l'été dernier le dôme de chaleur qui a fait plus de 500 morts et provoqué plusieurs incendies.
Il est 7h35, Marion. Nouvelle conférence de presse du ministre de la Santé allemand ce matin.
L'occasion sans doute de détailler les mesures sanitaires annoncées par la chancelière hier pour contrer la nouvelle vague de Covid. Un quasi-confinement pour tous les non-vaccinés. Ils n'ont plus accès aux commerces non essentiels, aux restaurants, aux lieux de culture et de loisirs et doivent limiter leurs contacts. Chez nous aussi, face à la vague, les restrictions sanitaires pourraient se durcir. Le Premier ministre l'annonce. Un nouveau conseil de défense est prévu lundi matin. Au menu, bien sûr, la lutte contre la cinquième vague de Covid. Plus de 48 000 contaminations et 103 morts en 24 heures. Le variant Delta reste largement prédominant. Mais la nouvelle souche Omicron est bien là. 9 cas confirmés sur notre sol, selon Santé publique France. De quoi donner du fil à retordre aux brigades anti-Covid de l'assurance maladie. Leur mission, retrouver les malades et leurs contacts pour enrayer les contaminations. Claudia Calmel, dans la Somme, par exemple, la CPAM va devoir doubler ses effectifs.
Passer de 20 à 40 personnes d'ici la fin de l'année et les premiers agents recrutés sont déjà en formation sous la houlette d'Éric Lachat, l'un des managers de la cellule Contact Tracing.
La première chose que vous devez faire, c'est recenser les cas contacts dans les 48 heures précédant les symptômes du PO.
Le PO, c'est le patient zéro, celui qui a été testé positif.
On est bien d'accord que s'il s'agit d'une personne vaccinée cas contact, elle n'est pas tenue de s'isoler. Ça va pour vous ?
Et pour François, ça va plutôt bien.
Non, c'est pas compliqué. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on entend sur le gouvernement, les gestes barrières, c'est le même principe.
Imane, elle, connaît les procédures sur le bout des doigts. Elle a commencé à travailler à la cellule au mois de mars.
J'ai à cœur de vraiment avoir le plus de personnes possible, quoi, en tant que cas contact.
Vous avez l'impression d'avoir un rôle important dans la gestion de cette épidémie ?
Ah oui, complètement. Oh oui, on est au cœur de... du problème. Et puis, on est comme tout le monde aussi, on veut que ça s'arrête. Donc on essaie de faire notre max.
Un contact tracing qui a pour but de briser les chaînes de contamination. Mais la mission est plus large pour Delphine Falampin, manager et copilote de la cellule.
On rassure les personnes qu'on a au téléphone. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'écoute. Et oui, l'assurance maladie a trouvé sa place et rempli son rôle dans cette crise sanitaire.
Depuis un mois, l'activité de la cellule contact tracing de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a été multipliée par 3.
Un reportage France Bleu Picardie. Autre arme contre la maladie, le vaccin. 77% des Français sont vaccinés, mais 6 millions n'ont pas encore reçu leur injection, témoignage dans le journal de 8 heures sur Inter. Et au rang des armes anti-Covid, la chloroquine a fait long feu. Son défenseur, le professeur Didier Raoult, a-t-il enfreint la déontologie médicale en préconisant ce remède ? Question posée aujourd'hui à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Décision dans la journée, le professeur Raoult risque la radiation. Lui reste le principal suspect après la disparition de sa femme, Delphine Jubilard, à Cagnac-les-Mines, près de Toulouse, il y a presque un an. Cédric Jubilard doit être entendu à nouveau par les juges ce matin. Il est actuellement détenu et mis en examen pour meurtre. Il n'y a pas assez d'investissement dans l'éolien, ça c'est l'avis des professionnels de l'éolien en mer, avis très contesté à droite, surtout à l'extrême droite. En matière d'éolien en mer, pourtant, la France est loin derrière les Britanniques, les Allemands, les Néerlandais, les Belges. Notre premier parc ne sera mis en service qu'en fin d'année prochaine au large de Saint-Nazaire. Insuffisant pour atteindre la neutralité carbone en 2050, disent les représentants de l'éolien en mer. Sandy Dauphin, ils appellent même à doubler le rythme de déploiement.
Aujourd'hui, 7 parcs d'éoliennes en mer sont dans les tuyaux au large des côtes françaises. Un 8e appel d'offres a été lancé pour la Normandie. Mais il faut beaucoup plus de projets, d'après Michel Jura, délégué général de la filière France Énergie éolienne, qui vise 50 gigawatts de capacité installée en 2050. C'est plus de 25% de la production d'électricité.
On veut passer de 1 gigawatt attribué par an à 2 gigawatts attribués par an entre maintenant et 2035 et jusqu'à 2050. Aujourd'hui, on est à un moment clé. C'est-à-dire, si on continue à prendre du retard sur le rythme de développement des énergies renouvelables, on va passer à la fois à côté des opportunités industrielles qui sont associées et on va rater notre transition énergétique.
Et la relance d'un programme nucléaire ne suffira pas pour atteindre les objectifs climat, surtout à court terme, explique Jean-Louis Ball, président du syndicat des énergies renouvelables.
Quel que soit le programme d'investissement dans le nucléaire, il faudra à minima 50% d'électricité renouvelable. Les annonces gouvernementales portent plutôt sur le nucléaire que sur les renouvelables, on a l'impression d'être un peu les oubliés du discours politique.
Et en pleine campagne présidentielle, la filière des énergies renouvelables s'inquiète des discours anti-éoliens des candidats d'extrême droite, mais aussi de droite.
Cela va-t-il inciter les Français à rouler moins et donc émettre moins de gaz à effet de serre? Les tarifs des autoroutes devraient grimper de 2% en moyenne en février prochain. Les concessionnaires promettent que ça ne dépassera pas l'inflation. Si vous habitez Paris, il faudra peut-être prendre l'autoroute ou le train pour aller voir Les Baudins. Ce film de Frédéric Forestier, sorti le 17 novembre, fait un carton partout en France, deuxième du box-office. Mais en Ile-de-France, 23 000 personnes l'ont vu seulement. Et c'est une nouvelle illustration de la fracture Paris-Provence. Réponse avec Julien Morcelli.
Les Baudins, c'est l'histoire d'une vieille fermière qui doit remonter le moral de son fils.
Bon, écoutez, Madame Baudin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan ?
Des blagues de terroir qui ont visiblement du mal à franchir le périphérique parisien.
C'est pas du tout mon délire, quoi.
Puis c'est un peu vulgaire.
Enfin, ça ne dit rien du tout.
On est bien loin du carton en région. Nathalie Fidalgo dirige deux cinémas dans l'agglomération de Rennes.
Ah, c'était le premier sur sa semaine de sortie, sans commune mesure. Nous avions des coups de fil incessants de spectateurs qui n'avaient pas l'habitude d'aller au cinéma et qui appelaient le matin parce que les villes aux alentours qui allaient accueillir aussi l'avant-première était complète, donc on avait effectivement des gens qui venaient à une heure de route pour pouvoir les rencontrer et venir assister à l'avant-première.
Mais alors pourquoi un tel écart entre Paris et les régions ? Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet, les deux acteurs principaux, ne comprennent pas.
À aucun moment avec Jean-Christian, on a cette stratégie d'isoler les Parisiens du reste de la France. On ne pense pas qu'il y a de fracture sociale entre Paris et la province, d'autant qu'il y a longtemps qu'on sait que Paris n'est habité que par des provinciaux.
L'équipe du film regrette le choix des exploitants de salles parisiennes de ne pas diffuser plus largement Les Baudins. À Paris, il n'est projeté que dans 3 salles.
Enfin, dans un tout autre genre, vous pourrez y acheter des mitaines du grand couturier Karl Lagerfeld, ses meubles, ses affiches ou pourquoi pas le coussin amoureusement brodé pour son chat Choupette. Sotheby's met en vente dès aujourd'hui une partie des collections de Lagerfeld. Je vous laisse avec cette phrase du créateur qui nous a récemment quitté, Nicolas. Ce qui est amusant, c'est de collectionner, pas de posséder.
Ah, c'est joli. Merci Marion Lehour. À suivre, l'édito Écho.